France Inter. Le 18-20, Fabienne Saint-Esse.
Est-il possible d'avoir aujourd'hui une discussion des passionnés sur les pesticides? Tout le week-end, vous avez entendu se déchirer les maires selon une enquête du site web de France Inter. Après l'Angouette, ils sont plus de 45 désormais à avoir passé des arrêtés anti-pesticides. Donc les maires, les agriculteurs évidemment, les associations environnementales aussi, le gouvernement qui a décidé de lancer donc une consultation pour fixer dans la loi une distance minimale entre les champs traités aux pesticides et les habitations. Ce projet de décret se base sur les préconisations scientifiques qui ont été rendues par l'ANSES, on pourrait y revenir, et qui préconisent la mise en place de distances allant de 5 à 10 mètres selon les types de cultures. Et puis, il y a nous aussi dans ce débat, les lambda, nous qui habitons près de ces champs, qui mangeons ces légumes ou ces fruits. Est-ce que quelqu'un peut nous parler sans visée électoraliste, sans être jugé parti, sans nous parler de recherche qui, en l'état, parce que en l'état ça ne suffit pas, sans nous parler de environ, parce que environ ça ne suffit pas non plus. Les temps ont changé, notre rapport à l'écologie, notre conscience des dangers est différente aujourd'hui. L'agriculture a changé évidemment, elle aussi. Ces deux mondes-là doivent pouvoir se retrouver. À vos questions, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Marcel, c'est vous le premier. Bienvenue au téléphone sonne. Bonsoir.
Bonsoir Fabienne Saint-Esse et bonsoir vos invités. Moi je suis très concerné par cette question parce que j'habite, ma maison se trouve environ à 20 mètres d'un champ de céréales arrosé de pesticides, situé dans le nord de Lyon. Et par ailleurs, je suis écologiste au sens où j'essaye de vivre en tout cas comme un écologiste m'alimentant uniquement en aliments bio, à 100% bio, en me chauffant au bois de chauffage condensé, au bois condensé pour économiser l'abattage des arbres, en étant végétarien, etc. Bon, je suis vraiment écologiste dans l'âme et dans les faits, et pourtant je suis pas d'accord avec la zone tampon, la mesure qui a été proposée par les maires, la zone tampon de 150 mètres autour des champs cultivés en agriculture conventionnelle, qui demande beaucoup de pesticides. Je pense que c'est irréaliste parce que dans mon cas, cela demanderait à mon voisin de renoncer à cultiver son champ, qui n'est pas très grand, et il fait moins de 150 mètres vu de ma fenêtre, là, si vous voulez. Et comme je suis à 20 mètres, vous voyez, si on met 150 mètres d'exclusion, il faut qu'il arrête de travailler. Et je pense que j'aurais une autre solution, qui existe déjà par ailleurs, je vais vous expliquer. Donc la mesure, la zone tampon de 5 à 10 mètres me paraît acceptable, si elle est complétée par une obligation de planter une haie d'arbrisseau de 2 à 3 mètres de hauteur, par exemple, et à la limite du champ cultivé. Et cette mesure, ça existe déjà, en fait, pour l'agriculture bio. Un agriculteur qui veut se lancer dans l'agriculture bio et qui veut obtenir sa certification en AB, en agriculture bio, il doit se protéger des voisins qui sont en culture conventionnelle avec des pesticides, en plantant des haies.
Ça existe aussi effectivement dans certains pays, je le dis au passage, Marcel, les haies protectrices, en fait.
Allô?
Et oui, j'ai dit, ça existe aussi dans certains pays, ces fameuses haies protectrices dont vous parlez
oui,
à l'instant.
Oui, mais moi je vous dis ce que je connais, je connais pas les autres pays, mais par contre ça, je sais que ça existe parce que j'en ai parlé avec les jardins de la Croisière qui sont près de Sens, qui ont, quand ils ont demandé leur certification, ils ont eu ce problème, là, il fallait qu'ils plantent une haie. Bon, je pense que dans le cas présent, par rapport aux habitations et aux champs cultivés à proximité, ça serait plutôt au cultivateur de planter une haie, parce que c'est le principe du pollueur, payeur-pollueur, hein, c'est pollueur-payeur. Bon, je pense que plutôt à lui de planter la haie, mais je pense que c'est une mesure qui existe pour protéger les champs bio de l'arrosage par des pesticides des voisins qui sont en culture.
Et pourquoi pas l'étendre donc en d'autres circonstances. Marcel, pardon de vous interrompre, mais il y a énormément de questions au standard, ça nous permettra de balayer tous ces sujets, et merci à vous parce que vous avez vous permettez qu'on rentre de plein pied dans ce qui nous intéresse ce soir pour discuter discuter ensemble jusqu'à 20h, répondre à vos questions, vos interrogations. Fabrice Nicolino est là. Bonsoir, monsieur Nicolino.
Bonsoir à vous.
Vous avez écrit « Le crime était presque parfait ». Enquête.
Le crime est presque parfait.
Est presque parfait, c'est vrai, ouais. Enquête sur enquête choc, pardon, ça y est, sur les pesticides et les SDHI. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Vous, pour que les gens se situent, vous êtes aussi à l'origine de cette pétition de Nounou des Coquelicots qui a été signée. Je suis resté à 800 000, voilà, on était à peu près là.
Oui, mais excusez-moi, ce n'est pas une pétition, c'est un appel à l'action, c'est très différent.
En tout cas, 800 000 personnes au bout, ou peut-être un peu plus.
850 000
personnes. 850 000, Christian Durlin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vice-président et membre de la commission environnement de la FNSEA. Il y a beaucoup de choses dans la question de Marcel. D'abord, je trouve intéressant cette espèce d'ambivalence, en fait. Voilà, un homme qui se dit écolo, qui fait attention à ce qu'il mange, donc il va seulement chercher les produits bio et qui a bien compris que c'était un peu compliqué quand même pour le champ et son voisin d'en face. Les fameuses haies dont il parle, est-ce que c'est cautère sur une jambe de bois? Est-ce que c'est une solution parmi d'autres? Est-ce qu'il peut y avoir une obligation? De quoi on parle exactement? Christian Durlin, d'abord, je vous donnerai la parole, monsieur Nicolino, bien sûr.
Écoutez, je crois que le témoignage de l'auditeur est assez représentatif de ce qu'on peut entendre sur le terrain, parce qu'on a aussi des riverains, des voisins, et je crois qu'il y a des questionnements, et c'est vrai que cette question des... de la protection des riverains par rapport à d'éventuelles dérives, c'est quelque chose sur lequel il y a des choses qui sont possibles. Et nous, justement, dans ce qu'on a toujours défendu dans ce sujet sur la protection des riverains, c'est la possibilité de traiter ces sujets-là à l'échelon territorial, c'est-à-dire d'avoir une discussion, parce que je crois qu'on a besoin de discussions sur ces thématiques-là qui sont pas toujours, les uns et les autres se représentent pas toujours les enjeux, et donc de pouvoir, selon les problématiques, selon les situations, choisir entre différents dispositifs de protection, soit des zones, soit des haies, soit des matériels spécifiques qui réduisent les dérives, et je crois qu'il y a des solutions pour encore faire mieux.
Mais les problématiques, est-ce qu'elles sont en fonction des besoins potentiels, je mets des guillemets à tout ça, en pesticides ou du type de produit? Parce qu'on a l'impression que si on parle simplement d'un type de produit, la discussion peut pas être simplement locale, elle ne peut être que à plus grande échelle. Est-ce qu'on parle donc de type d'exploitation? Est-ce qu'on parle de lieu d'exploitation? Je veux dire, est-ce que ça veut dire que pensez-vous que ces discussions ne peuvent avoir lieu qu'à micro-échelle, en fait?
Alors, l'échelle, pour nous, l'échelle de base, ce serait plutôt le département. Mais je pense que, comprenez que si on est dans une zone de très grande culture, ou si on est dans une zone périurbaine, ou par exemple en ceinture verte, où les parcelles sont entourées de maisons, on peut pas traiter les choses de la même façon, parce que à des distances, quand on retire des distances, là, ça fait des retraits de surface qui sont importants. C'est pour ça que, pour nous, l'échelle territoriale du département ou en dessous, c'est quelque chose qui est important. Et surtout, on insiste là-dessus, et moi je suis content du type de témoignage qu'on peut entendre, c'est que on sent bien que les riverains se posent des questions, essayent de comprendre. Et ça, il faut qu'on ait cet échange entre les agriculteurs et la population pour s'expliquer.
Alors, essayent de comprendre. Le problème, Fabrice Nicolino, c'est qu'on n'a pas forcément les réponses aux questions qu'on peut se poser lorsqu'on est à côté ou lorsqu'on est en ville ou qu'on soit, en fait. C'est comme ça que je vais vous poser la question. Vous avez écrit tout un livre là-dessus et d'autres d'ailleurs. Est-ce que, oui ou non, nous avons aujourd'hui entre les mains les informations nécessaires, nous, citoyens, pour pouvoir avoir un vrai avis tranché et le mettre notamment en ce moment sur le site qui est ouvert pour les citoyens?
Écoutez, oui, il y a beaucoup d'informations disponibles, au meilleur, qui sont publiées vraiment dans de très nombreuses revues scientifiques du monde entier, des revues extrêmement réputées sur le plan scientifique. Je tiens à dire un truc préalable, parce qu'il n'y a surtout pas de malentendu. Notre mouvement, c'est-à-dire le mouvement L'Appel des Coquelicots, c'est pas du tout un appel contre les paysans. En aucune façon, on veut, nous souhaitons tous, et moi le premier, des millions de paysans dans ce pays. On se bat contre une pratique agricole qui a commencé il y a 70 ans et qui peut et qui doit, selon nous, s'arrêter maintenant. Alors, concernant l'empoisonnement, car il faut parler d'empoisonnement. Moi, je tiens beaucoup à ce mot-là. J'estime personnellement que le droit à ne pas être empoisonné est un droit élémentaire de l'homme et que ce droit, il faut avoir le courage de le défendre clairement et sans détour. Encore une fois, on défend les paysans, mais pas les pesticides. Et les connaissances scientifiques sont immenses dans ce domaine. Il y a des centaines d'études qui démontrent l'extrême dangerosité des pesticides. Et quand j'entendais votre interlocuteur tout à l'heure, j'avais un peu, comment dire, une hésitation parce que les pesticides, si vous voulez, ont cette particularité de se balader. Les pesticides, vous les épandez sur un champ, ils sont repris par vaporisation dans les nuages, dans le vent, ils sont dans l'eau de pluie, ils sont dans l'eau de pluie des villes. Les analyses qui ont été faites dans le passé par l'INRA, que ce soit à Paris, à Lille, à Lyon, à Rennes, montrent qu'il y a beaucoup de pesticides dans l'eau de pluie et dans l'air des villes également. C'est pourquoi d'ailleurs des villes, et pas seulement les villages comme Langouette, mais il y a des villes de la région parisienne comme Gennevilliers, Sceaux, Malakoff, se battent. Tout simplement parce que l'air des villes est autant pollué par les pesticides que l'air des campagnes.
Ça veut dire qu'on jette tout, en fait. Vous, ce que vous dites, monsieur Nicolino, on jette tout. Il ne peut pas y avoir de graduation. Il ne peut pas y avoir de
Comment vous expliquez ça? Si vous voulez, la chimie de synthèse, l'industrie des pesticides, parce que c'est de ça qu'on parle. C'est l'industrie des pesticides, c'est les grands groupes de l'agrochimie. Il ne faut pas non plus se cacher son petit doigt. C'est Bayer Monsanto, c'est Syngenta, c'est Dow Chemical, c'est BASF, bon, c'est ces groupes-là qui veulent faire de l'argent avec des molécules qui leur apportent beaucoup d'argent. Par exemple, dans le livre que j'ai écrit, je m'intéresse au plus haut point à une nouvelle classe chimique de pesticides qu'on appelle les SDHI. Mmh. Il y a derrière cette apparition assez fantomatique de ces SDHI un authentique scandale de santé publique qui est absolument couvert, en tout cas c'est mon sentiment sur la base d'une enquête rigoureuse, qui est absolument couvert par les autorités de l'État français. Donc si vous voulez, on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu un plan éco-phyto, je le dis pour vos auditeurs, en 2008, le gouvernement français, à l'époque le président était M. Sarkozy, a lancé un plan éco-phyto de plusieurs centaines de millions d'euros pour réduire l'usage des pesticides de 50% en 10 ans. Or non seulement des centaines de millions d'euros ont été dépensés en vain,
Monsieur Nicolino,
mais il y a eu augmentation de l'usage des pesticides de 20% en 10 ans.
Et en même temps, je lis aussi en l'état actuel des connaissances relatives à la SDHI, pardon, aucune donnée ne permet de confirmer ou d'infirmer la validité de cette hypothèse de seuil, etc., etc. Donc, je vois la difficulté aussi que ça représente. Je voudrais poser la question à l'agriculteur qui est là, monsieur Christian Durlin. Et comment on fait? Est-ce que vous pouvez dire aux gens, vous, aujourd'hui, si nous avons cette espèce de zone tampon, qu'elle soit de 5 ou 10 mètres, ça n'est pas dangereux pour les gens? Est-ce qu'on est en mesure de répondre à cette question-là?
Alors déjà,
parce qu'on a bien compris la réponse de monsieur Nicolino d'un côté, je voudrais savoir ce que vous, les agriculteurs, vous dites.
Alors, nous, en tant qu'agriculteurs, ne sommes pas scientifiques. Donc, je crois que les agriculteurs utilisent les produits phytosanitaires dans le cadre de sécurité assurée par une réglementation. Donc, les produits ont des autorisations de mise en marché qui prennent des précautions par rapport à un certain nombre de risques. Il y a des arrêtés sur les conditions d'utilisation. C'est pour ça, bon, quand on entend...
Et notamment le vent, bon, parce qu'on a beaucoup de questions qui disent, mais enfin, comment, en cas de vent, etc., il y a des dispositions particulières.
Il y a une vitesse maximum de vent en dessous duquel
on ne peut pas... C'est censé être 19 km/h, est-ce que c'est ça?
C'est ça, oui. Donc, et justement, enfin, quand vous regardez aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs font des traitements soit la nuit, soit très tôt le matin, en période d'hygrométrie forte et quand il n'y a pas de vent, justement, pour s'assurer que les traitements fonctionnent bien et qu'ils ne vont pas sur les parcelles d'à côté.
Je vous pose la question parce que c'est...
Enfin, j'aurais juste rajouté en termes... Enfin, pour qu'on on mesure bien quand même par rapport à la question de la dérive. Moi, je suis agriculteur en conventionnel et en bio. Hein. Je fais les deux et j'ai des parcelles qui se touchent bord à bord, sans haies, sans rien, et je fais des traitements sur le conventionnel et j'ai pas de problème de contamination sur ma parcelle bio. Donc, on peut faire des choses correctement et éviter la dérive sur les parcelles voisines.
Eh bien, justement, voici l'un de vos collègues. Il s'appelle Vincent. Bonsoir, Vincent.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Bonsoir à tous. Moi, je suis agriculteur en bio depuis 30 ans parce que quand j'ai fait ma formation, on nous conseillait et des produits interdits et des mélanges de produits. Et après, à la fin du cours, on nous disait, mais surtout, n'en mangez pas. L'année dernière, on a perdu 5000 salades parce qu'on a été pollué par un voisin. Nous sommes dans la vallée du Rhône. Il y a toujours du vent. Personne ne respecte la réglementation sur les traitements les jours de vent. Ça, c'est faux. On l'a souvent demandé, je suis pas du même syndicat que ce monsieur, on l'a souvent demandé aux autorités de l'État qui n'ont jamais bougé là-dessus. On a eu beaucoup de de collègues qui ont perdu des cultures et qui ont été pollués par leurs voisins. Et c'est pour ça que cette histoire de 10 mètres, c'est une plaisanterie, parce que avec le Mistral ou le vent du sud qu'on a dans la vallée du Rhône, ces produits traversent même les haies, passent par-dessus les maisons.
Justement, j'allais vous poser la question à vous. Si on mettait des haies, y compris entre champs bio et champs conventionnels, on va dire, est-ce que ça vous aiderait, vous, ou pas du tout?
Ça limiterait un peu le jour où il n'y a pas de vent, mais le jour où il y a du vent, ça ne change rien du tout, quoi.
Merci Vincent pour votre témoignage. Si je vous pose la question à tous, et ça rejoint ce que dit Vincent, c'est que les emails qu'on reçoit depuis tout à l'heure, c'est 8 ou 10 mètres, mais de qui se moque-t-on? Qui a pu calculer au fond cette distance minimale, quelle que soit la météo? Est-ce qu'on sait, Fabrice Nicolino, comment ça se calcule ce genre de choses? Ça répond?
Écoutez, franchement, c'est malheureusement trop compliqué dans le cadre de cette émission, mais c'est un sujet passionnant, c'est-à-dire les normes, les règlements, la fameuse dose journalière admissible qui est un peu le fondement de toute la réglementation. Tout ça a été bricolé sur un coin de table dans des conditions très 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 discutables, mais surtout, il faut retenir que les connaissances, depuis cette époque lointaine où tout ça a été créé, il y a au moins 65 ans, et bien depuis cette époque, les connaissances ont complètement explosé et les autorités de contrôle refusent absolument de prendre en compte des nouvelles connaissances scientifiques. J'insiste là-dessus parce que je veux dire quelque chose de très précis concernant un scientifique de réputation mondiale qui s'appelle Pierre Rustin, qui travaille pour l'INSERM.
Qui est beaucoup dans votre livre.
Oui, parce que c'est un personnage absolument extraordinaire qui a eu le courage de dire, sur la base de son travail scientifique, que les nouveaux pesticides SDHI menaçaient la santé des humains, pouvait provoquer des très graves maladies neurologiques et des cancers. Et cet homme-là, de réputation mondiale, encore une fois, vient voir notre agence de protection, l'ANSES, qui l'envoie promener gentiment, fermement, qui se tait pendant 6 mois et qui ensuite refuse obstinément de prendre en compte des arguments de nature scientifique. C'est quand même un énorme problème. Est-ce qu'on est protégé? Non, nous ne sommes pas protégés. Est-ce que 5 à 10 mètres, c'est sérieux? Non, ça n'est pas sérieux, car les pesticides, je le répète, voyagent tranquillement par le vent, par l'eau, les nuages, etc. Par l'eau, bien entendu, par les aliments qu'on consomme. Je répète cette expression à laquelle je tiens beaucoup. Nous sommes les victimes d'un empoisonnement universel et c'est très important d'avoir ça en tête.
Charlotte, bonsoir. Je vous ai pas oublié, monsieur Durlin. Charlotte, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute.
Bonsoir à tous. Je suis paysanne en Ille-et-Vilaine. J'ai des vaches laitières et je suis en bio depuis presque un an. Moi, je voulais réagir parce que j'ai l'impression en fait que le gouvernement daigne enfin à prendre ses responsabilités, parce qu'en fait, il faut savoir quand même que si des maires ont pris des mesures aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait une absence d'outils à leur disposition pour protéger la population. Le gouvernement est en train de reprendre les choses en main en se disant bon, on va quand même faire quelque chose. Et donc, on nous propose 5 à 10 mètres. Ce qu'il faut savoir avec ces 5 à 10 mètres, c'est que déjà, ça ne va pas régler du tout la protection de la population. Et on risque de voir sur le terrain des choses monter entre les paysans et les citoyens, parce qu'il y a quand même des gens qui commencent à filmer, des choses comme ça. Ce qui peut se comprendre, parce que les pesticides, ça empoisonne d'abord les paysans et ça empoisonne la population. Nous, on demande à sortir des pesticides depuis très longtemps, mais avec les 5 à 10 mètres, le problème, c'est qu'on va mettre ça en place et on ne va pas accompagner les agriculteurs, parce qu'il faut une transition globale de toute la France. On doit sortir des pesticides pour monter en gamme et faire de la meilleure alimentation pour tous. Et si on ne met pas d'accompagnement pour les paysans, bien sûr qu'il faut reconnaître que les pesticides ont quand même amené de la charge de travail en moins. Enfin, c'est tout un modèle, en fait, quoi. Et faire sans pesticides, bah oui, ça demande plus de travail, plus d'outils de mécanisation, et c'est un ensemble qu'il faut changer. En Bretagne, en Bretagne comme en France, en fait, il y a eu des plans, comme on l'a dit tout à l'heure, là, Ecophyto, il y a des MAE, tout ça, c'est des mesures de la PAC qui accompagnent le verdissement, mais elles sont complètement insuffisantes, parce que, par exemple, en Bretagne, la quantité de pesticides épandus ne stagne, voire augmente légèrement, alors qu'il y a plus de paysans à faire du bio, il y a plus de paysans à avoir réduit leur quantité de pesticides sur la ferme. Et le dernier truc que je voulais dire...
Rapidement, Charlotte, pardon, mais oui, vraiment l'heure tourne, allez-y.
Oui, je me dépêche. Le dernier truc que je voulais dire, c'est que il faut aussi que le gouvernement écoute d'autres syndicats que la FNSEA, parce que la FNSEA, depuis qu'elle est à la tête des chambres d'agriculture, n'a jamais encouragé les paysans à diminuer leur quantité avec des objectifs et des des vraies mesures.
Alors là, vous, vous en avez un en face de vous qui fait les deux. Donc,
qui ne représente pas tous les paysans.
Alors, mais au moins, il est là, Christian Durlin. Deux choses dans ce qu'a dit, dans ce qu'a dit Charlotte. D'abord, effectivement, la relation entre les gens, les mairies et vous, ça va être quelque chose, ça devient compliqué. Clairement, on est dans la période où ça devient compliqué. Quelle réponse vous pouvez donner? Vous l'avez dit vous-même, vous n'êtes pas chimiste. Qu'est-ce que vous dites à un maire qui vous dit, moi, ça me fait peur pour mes administrés, et on peut le comprendre. Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, vous? Qu'est-ce que vous lui dites?
Moi, je peux pas lui apporter de réponse scientifique. C'est pas mon métier. Je suis agriculteur. Voilà, je dois répondre à un marché, etc. Je crois que le maire qui se pose des questions scientifiques, il faut qu'il interroge les instances. L'ANSES est quand même une agence indépendante. Donc, si les agences indépendantes ne font plus référence, ça devient problème. Je dis pas que tout est. Enfin, donc, par rapport à cette question-là, je crois qu'il faut quand même avoir comme référence des agences indépendantes. Ensuite. C'est clair, la notion de dialogue, moi j'appelle quand même un maximum de contacts entre les maires, les agriculteurs et les riverains pour aborder cette question-là, pour qu'on se comprenne les uns les autres. On a besoin de protéger nos cultures, on a besoin de le faire. Il y a des enjeux qui sont importants. On doit entendre cette question-là.
Et en même temps, vous avez bien vu que si on en parle aujourd'hui, qu'il y a des distances qui ont été mises en place, c'est parce qu'il y a un maire qui a décidé de taper du poing sur la table, et peu importe si à la fin, juridiquement,
le sujet
il
est plus ancien que ça. Je rappelle simplement que au niveau de la FNSEA, nous avions proposé la mise en place de chartes déjà depuis un an et demi. Donc c'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà un an et demi qu'on travaille à ce sujet-là, parce qu'on est persuadé que c'est à travers le dialogue qu'on doit régler d'abord cette question.
Il y avait une deuxième partie dans la question de Charlotte qui était les incitations, en gros, à changer de méthode pour les agriculteurs et notamment à passer au bio. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, par exemple, Monsieur Durlin, d'être à 100% bio?
Eh ben, l'expérience que j'ai depuis plus de 10 ans, puisque maintenant il y a plus de 10 ans que sur les cultures que je pratique, je vois un risque qui est pas facile à gérer, pour moi la conversion elle se fera progressivement et en fonction des marchés aussi. Aujourd'hui il y a encore une demande de marchands. Bah aussi parce que, par exemple, dans mes interlocuteurs, j'ai quelques entreprises agroalimentaires qui, pour l'instant, travaillent encore sur des produits conventionnels et qui demandent des normes de produits qui font qu'on est obligé de les protéger d'une certaine façon. Juste une idée sur par exemple, la salade quatrième gamme aujourd'hui, le cahier des charges, c'est zéro puceron. Ben, c'est impossible à faire en agriculture biologique. Donc, vous voyez, on a quand même des obligations sur lesquelles il faut arriver à répondre.
Fabrice Nicolino, pression sur les agriculteurs ou pression sur les chimistes?
Écoutez, je vous écoute avec intérêt, monsieur, bien sûr, mais disons, le dialogue, il a déjà eu lieu. Là, vous appelez au dialogue, mais je le disais tout à l'heure, il y a eu un plan qui a mobilisé des centaines de millions d'euros d'argent public, auquel la FNSEA a été étroitement associée. Donc, 10 ans de blablabla, des centaines de millions d'argent dépensés en vain, augmentation de 20% de la consommation de pesticides en France, alors qu'on prévoyait une diminution de 50%. Donc, excusez-moi, le dialogue a déjà eu lieu, et maintenant, pour moi, l'heure est à l'action contre des poisons. Et j'ajouterai une chose, parce que vous avez abordé la question de l'ANSES. L'ANSES, donc notre agence publique de protection sanitaire, non, malheureusement, elle n'est pas indépendante. Elle obéit à la politique, d'une part, ça c'est la première chose, et d'autre part, elle, dans les dossiers concrets que j'ai pu examiner, dont celui des SDHI, elle est clairement du côté des intérêts industriels, au détriment des intérêts de la population. Donc c'est un problème politique majeur.
Alors, juste, allez-y, Monsieur Durlin, on tournera au standard dans un instant, je vous en prie.
Juste par rapport, parce que bon, qu'il n'y ait pas non plus de... je vous disais que je suis agriculteur aussi agriculteur en agriculture biologique. 100% de mes surfaces en agriculture biologique sont à moins de 150 mètres des habitations. J'utilise des produits comme le cuivre, comme le soufre, comme d'autres produits sur l'agriculture biologique. Si demain c'est arrêté, les arrêter à 150 mètres percés, j'arrête l'agriculture biologique sur mon exploitation parce que je ne saurais pas la mener.
Alors on n'est pas à 150 mètres pour l'instant, puisque
oui, mais pour vous donner,
on est à 5 à 10 mètres. Avant d'écouter Vincent, juste une seconde. Je vois encore une loi qui est inapplicable et qui va générer de multiples contentieux. Comment les habitants vont-ils faire la différence entre l'épandage de produits chimiques ou non chimiques? Et là encore, il y a un travail de pédagogie, mais là pour le coup c'est le vôtre, non? C'est celui des agriculteurs de faire ce travail-là, d'expliquer, de dire voilà ce que je mets dans mon champ, voilà comment ça marche, voilà quelle est la dose, voilà à quoi ça sert.
Alors, c'est tout le travail de communication. Enfin, au passage, j'aurais quand même salué. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'initiatives d'agriculteurs qui ouvrent leurs exploitations pour expliquer soit aux écoles, soit qui font ce travail pédagogique. Et il faut continuer à le faire. Je crois que c'est en échangeant pour comprendre un petit peu les enjeux des uns et des autres qu'on va avancer, de toute façon.
C'est plutôt pour vous, cette question, Monsieur Nicolino. Bonsoir, Vincent.
Oui, bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Merci. Voilà, donc moi je suis un citoyen lambda, un consommateur lambda, et je prends petit à petit conscience qu'il y a une accumulation de données scientifiques qui tendent à confirmer quand même qu'il y a un véritable problème de santé qui va se poser avec l'accumulation de pesticides dans la nature, dans l'environnement, dans les villes, dans les campagnes et au sein du corps humain ensemble. Donc ma question est toute simple, c'est quel est finalement, du fait de l'antériorité et de l'ancienneté de l'accumulation de ces preuves scientifiques, la responsabilité des gouvernants et des administrations qui continuent finalement à signer des autorisations d'utilisation sur le marché de produits chimiques, de techniques qui vont visiblement à l'encontre de ce que les scientifiques prouvent par démonstration et par leurs études dans les laboratoires publics ou privés dans lesquels ils travaillent.
Fabrice Nicolino, la faute à qui ? C'est ça le sens de la question.
Écoutez,
de Vincent.
Moi, mon livre s'appelle Le crime est presque parfait parce que je pense qu'on est quand même dans une certaine atmosphère criminelle. Parce qu'en effet, on sait de manière certaine, sur la base de très fortes études scientifiques, que les pesticides sont un danger terrible. Pas seulement pour les humains, bien sûr pour les humains, on l'a dit 100 fois, mais aussi pour les écosystèmes. Je veux rappeler que les études absolument indiscutées jusqu'à aujourd'hui montrent que 75% des insectes volants ont disparu en 27 ans. Ça, c'est une étude qui a été faite en Allemagne. Donc, 75% des insectes qui disparaissent. Le tiers des oiseaux communs de notre pays ont disparu en l'espace de 15 ans. Ça, c'est une étude du Muséum et du CNRS, notre grand institut public de sciences. Donc, le tiers des oiseaux nous ont quittés. Ces instituts, ces études disent clairement que le responsable principal, non pas unique, mais principal, c'est les pesticides. Et je pose la question, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'une société démocratique fait en face d'une accumulation de faits aussi affreux, alors même que nos gouvernants, en effet, et nos agences de protection ne fichent strictement rien ? Et moi, je crois qu'arriver à ce stade-là, il n'y a plus qu'une seule voie praticable par la société française, c'est celle de la désobéissance civile et c'est celle de la révolte, bien sûr non-violente, totalement non-violente. Moi, je suis intégralement non-violent, mais la révolte est devenue nécessaire.
Christian Durlin, pourquoi ne pas mettre des pancartes dans tous les champs traités pour indiquer aux riverains la liste des traitements chimiques utilisés ? C'est une question sur franceinter.fr.
Ben, j'inviterais plutôt les riverains à rencontrer l'agriculteur pour qu'il puisse expliquer quel est son programme, comment il fait. Je crois qu'il y a la notion de contact individuel ou je crois que la solution, elle est pour celui qui se pose des questions, faut qu'il aille voir son voisin et qu'il en discute avec lui. C'est certainement, à mon avis, au moins aussi intéressant et puis ça permet de créer un petit peu de contact quand même en passant.
Paul, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Paul, allez-y.
Oui, moi j'écoute Monsieur Nicolino là à casser le programme Ecophyto dont je fais partie. Je trouve ça un peu fort de café parce que de toute manière le programme Ecophyto quand même visait à réduire les intrants certes de 50% certes, mais on avait aussi dans l'optique aussi de conserver une marge économique parce qu'on travaille pas pour rien. Parce que moi je connais personne qui travaille pour rien. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait du contact, ça c'est clair. Moi je rejoins tout à fait Monsieur Durlin. Moi je côtoie des éleveurs bio, je côtoie des éleveurs conventionnels, de toute taille, de tout horizon. On discute, on essaye de prendre ce qui est bon dans le bio. Après, il faut aussi savoir que tout n'est pas forcément bon dans le bio. Je prends un exemple tout simple, les multiplications de charbon des dunes qui arrivent chez nos éleveurs conventionnels. Venant des éleveurs bio, qu'est-ce qu'on en fait ? Il n'y a plus rien pour les traiter. On fait comment ? Et d'une. Et de deux, je dirais, les bouts de stations d'épuration. Si vous voulez aller à la guerre et les agriculteurs, moi je connais certains agriculteurs, notamment conventionnels, qui vont vous dire, vos bouts de stations d'épuration qui contiennent des métaux lourds, c'est terminé. Vous vous débrouillez pour les mettre où vous voulez. Après, quid de ça, les gens qui vont se promener dans les routes, dans les chemins, comment on va faire ? Il va falloir mettre du rubalise tout autour de la parcelle pour les empêcher de se promener. Et à un moment, il faut être un peu sérieux aussi, quoi. Il va falloir du dialogue entre les gens, c'est clair.
et arrêter de se mettre sur la figure, c'est clair.
Mais est-ce que vous avez le sentiment que ça n'existe pas, ce dialogue entre les gens? Parce qu'on a l'impression que tout le monde appelle au dialogue. Mais quoi, concrètement, ça veut dire que ça n'existe pas? Ça veut dire que, comme vous dites, on est en guerre. Qui est en guerre contre qui aujourd'hui, en fait, Paul?
Je trouve que c'est un peu réducteur. D'un côté, il y a les gentils bio et d'autre côté, les méchants conventionnels. Moi, je suis à la rigueur entre les deux. J'essaie de réduire. Je suis quand même dans une démarche éco-phyto où j'essaie de réduire mes phytos. C'est un peu n'importe quoi, quoi. Nous, au sein des paysans, on essaie de discuter. Mes voisins, je suis prêt à les accueillir et à trouver des solutions. S'il faudra une distance de sécurité, certes, je la ferai, mais 150 mètres. Moi, j'ai pris ma voiture pas plus tard que hier. J'ai regardé l'impact que ça pouvait avoir, mais c'est énorme. C'est énorme.
Vous voulez dire une pollution contre une autre, hein. C'est ça que vous voulez dire en fait, une pollution contre une autre, Paul.
Bah oui. À ce moment-là, autour des élevages conventionnels, on va mettre aussi un périmètre de protection de peur que les graines d'adventices, des bio arrivent chez nous.
On a compris ce que vous vouliez dire. Christian Durlin veut répondre, et évidemment Fabrice Nicolini aussi. J'ai aussi une subsidiaire quand même, monsieur Durlin, pour aller avec ce que dit Paul. Mais je voudrais savoir si on cherche vraiment objectivement une alternative, cependant, parce que l'une des solutions, et même si elle est à moyen terme, c'est censé être celle-là. Est-ce qu'on cherche, oui ou non, une alternative pour que, à terme, on ait moins besoin de pesticides?
Non, mais c'est là le nœud du problème. C'est qu'aujourd'hui,
donc c'est non, la réponse.
On n'a pas, j'irais, dans notre boîte à outils d'agriculteurs, suffisamment d'alternatives pour pouvoir remplacer significativement l'utilisation des produits phytosanitaires de synthèse. Alors, on a essayé de prendre ce problème-là à bras-le-corps au niveau de la profession, puisqu'on a lancé une démarche qui s'appelle le contrat de solution, où on est en train de recenser avec les instituts de recherche tout ce qu'on peut recenser comme méthode de substitution des produits phytosanitaires. C'est pas évident, on est loin du compte, et les coûts et les efficacités sont pas toujours au rendez-vous.
La question, c'est est-ce qu'on la cherche, en fait? C'était ça le sens de ma question. Est-ce qu'on la cherche, cette solution-là?
Moi, je respecte tout à fait votre point de vue, vraiment, et votre personne, il n'y a aucun doute, mais franchement, je suis sceptique, c'est un faible mot. Parce que ce que vous dites là, je l'entends depuis une éternité. C'est répété sur l'air des lampions. Ça n'a pas été fait. Non, je parle pas de vous, monsieur, personnellement. Mais je parle tout de même de votre syndicat, la FNSEA. La FNSEA joue un rôle direct, central dans l'affaire des pesticides. Donc c'est un problème. Je vais vous dire un truc. Qu'il y ait des problèmes techniques, j'en suis tout à fait convaincu. Et moi, je serai toujours du côté des paysans. Moi, je vous dis, je tends une main fraternelle à tous les paysans de France. Et quand je dis tous les paysans, c'est, y compris ceux qui utilisent des pesticides. Je leur tends une main fraternelle. Je veux qu'il y ait des paysans dans ce pays. Je vais vous dire une chose. Qu'il y ait des problèmes techniques, aucun doute. Mais je connais un homme, par exemple, je vous cite un exemple. Je connais beaucoup de paysans. Paul François, c'est un céréalier de Charente. Il a été gravement empoisonné par un produit Monsanto, le Lasso. Très gravement. Ça fait 15 ans que ça dure, 15 ans qu'il est malade. Cet homme, il a une exploitation de 240 hectares de céréales. C'est donc un gros céréalier, ok? Il a fait passer la totalité de son exploitation en bio. Et cet homme-là, qui est un ami, je le dis sans aucune gêne, m'a dit il y a encore pas longtemps, oui, c'est assez facile pour moi d'expliquer sur un plan technique comment j'ai fait et comment on peut passer raisonnablement en quelques années d'un système conventionnel à un système bio. Attendez, je finis. C'est très important d'entendre cette parole. Elle n'est pas unique. Elle ne répond pas à toutes les questions. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a les problèmes techniques, mais il y a surtout les problèmes politiques, c'est-à-dire le refus total de nos autorités d'envisager une sortie enfin de l'agriculture industrielle, qui est en train de faire disparaître tous les paysans. Parce que c'est bien joli, votre discours, mais la FNSEA, pour ne pas la nommer, quand elle est née en 1946, il y avait des millions d'actifs à la campagne. Aujourd'hui, il reste 300 000 paysans. Bientôt, il n'y en aura plus que 100 000. Il n'y aura plus que des agro-managers avec des grosses machines dans les champs, avec énormément de pesticides. Donc, on peut dire que ça, c'est un bilan de faillite.
Christian Durlin, pour répondre, s'il vous plaît, parce que le temps tourne, vous la connaissez, cette histoire, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que oui, des exemples comme celui-là sont transposables réellement, ou est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites non, en l'état, ces exemples-là ne sont pas transposables?
Je ne dis pas que le marché, l'agriculture biologique, c'est un marché aujourd'hui. Donc, c'est vrai, moi, en tant qu'agriculteur biologique, quand je change mon système de gestion agriculture biologique, j'ai quand même, puisque c'est un marché qui est particulier, sur une rémunération qui est particulière, on arrive à équilibrer les choses, mais techniquement, c'est compliqué. Donc, la différence de marché sert aussi à compenser les pertes qu'on peut avoir.
Vous avez perdu de l'argent que vous êtes passé au bio, vous, pas? Vous avez évalué ça?
Eh ben, pour l'instant, heureusement, j'ai le conventionnel à côté. Je dis pas, mais c'est, je veux dire, les variations, elles sont beaucoup plus fortes en bio qu'en conventionnel parce qu'on n'a pas les mêmes outils. Enfin, globalement, ce que je peux dire. Alors, ce que je veux dire, c'est que si ces techniques-là, si on les applique à l'agriculture conventionnelle, on arrive à des coûts de production qui font qu'on n'est plus compatible avec le marché des céréales, avec le marché de l'industrie agroalimentaire, avec le marché de la grande distribution sur les produits conventionnels. Donc si c'est pour laisser de la place à l'importation, on n'est pas forcément d'accord non plus. Donc nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir avancer. On a compris cette démarche, cette volonté de la société civile aujourd'hui d'aller vers des produits qui avec moins de produits phytosanitaires. On mobilise nos moyens un peu partout pour essayer de trouver les solutions. Quand même, pour sortir une variété résistante, il faut 10 ans aujourd'hui. Pour sortir un produit de biocontrôle, il faut aussi 10 ans. On peut pas faire les choses comme ça du jour au lendemain.
Ça veut dire que si on vous imposait demain d'arrêter d'utiliser tel et tel pesticide, vous dites-vous que vous n'y arriveriez pas, que c'est impossible. Est-ce que selon vous, monsieur Nicolino, si demain on disait ça c'est interdit, ça aussi, qu'est-ce qui se passe?
Le mouvement des coquelicots, dont je m'honore d'être le président, veut la fin de tous les pesticides de synthèse. Est-ce que c'est possible demain matin? Certainement pas. Il faut une décision politique très forte, il faut mobiliser de très grands moyens matériels, une aide psychologique et matérielle aux paysans qui veulent se débarrasser de ces produits. Mais cela étant, il est évident, du reste, la plus grande partie de l'agriculture mondiale se passe de pesticides, rappelons-le tout de même, et l'avenir, ainsi que l'atteste un nombre croissant d'agronomes de très grande réputation dans le monde, l'avenir, nourrir 10 milliards d'humains à l'horizon 2050, oui, l'avenir, c'est de tourner le dos résolument à l'agriculture industrielle et donc à l'usage des pesticides.
Essayons de finir, pardon, sur une note un peu positive qui essaiera en tout cas de réconcilier ces deux mondes-là. Bonsoir Pierre.
Oui, bonsoir.
Vous avez une minute Pierre, pardon.
Bon, on va essayer de faire rapide. Je m'appelle Pierre, je fais partie d'un collectif en Sud-Ardèche qui s'appelle Stop Toxic Vigne, qui a été mis en place suite à l'apparition de la flavescence dorée sur notre territoire. La flavescence dorée imposant sur notre territoire donc l'utilisation des pesticides. Donc c'était quelque chose de relativement nouveau il y a 3 ans. Notre collectif a réuni aussi bien des vignerons que des riverains. Et petit à petit, à force de communication, on est arrivé à certaines avancées dans l'interne des mises en place, des choses qui ont été mises en place, que ce soit au niveau de l'école ou que ce soit en termes de mode de communication avec les vignerons alentours. Parce que vous parliez tout à l'heure de fait de prendre contact avec les producteurs alentours.
Et du coup, Pierre, pardon de vous presser, expliquez-nous comment vous prenez contact et comment vous vous mettez en commun les uns les autres.
Alors, aujourd'hui, on fait ça juste de bouche à oreille. On incite chacun à prendre contact avec les vignerons voisins. Mais c'est pas facile, c'est compliqué. On n'a pas les mêmes horaires, pas les mêmes rythmes de vie. Par conséquent, un des objectifs à terme, ce serait d'arriver à mettre en place une appli ou un petit logiciel, ou les deux, qui permettrait aux vignerons de dire demain, ou dans 2 heures, ou dans 48 heures, ou dans 72 heures, je vais traiter la parcelle 72. À partir de là, ça enverrait un SMS ou un email aux personnes qui ont défini cette parcelle 72 comme étant une parcelle de vigilance.
On a entendu.
À une mode de cohabitation. Et l'essentiel dans tout ça, avant, bien sûr, moi je suis adepte du bio, hein, type perso, mais la base dans tout ça, c'est d'arriver à une cohabitation. Et c'est ça qui me semble.
Merci Pierre, merci. Juste en un mot, Christian Durlin, chiche ce genre d'outils entre une appli, attention je pulvérise dans 2 heures ou demain matin. Non mais chiche, sérieusement, vous avez entendu qu'on a fini.
Je préfère le contact direct, je suis désolé, je préfère expliquer quand même à mes voisins
en début
de campagne.
Vous pouvez pas faire une réunion toutes les
2 jours. On peut profiter de la fête des voisins
pour expliquer
ce qu'on fait, ça sera peut-être
déjà pas mal. Allez, pardon de vous couper, mais vraiment il faut qu'on y aille. Merci à tous pour tous vos appels, vous étiez très 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 nombreux, ça prouve qu'on en fera une.